Et maintenant, un bon boîte cast.
Et maintenant, un bon boîte cast.
Eh bien, bonjour Sophie.
Eh bien, bonjour.
Voilà, donc je suis en communication avec Sophie Gravel, qui est nulle autre que, on va dire, la patronne des éditions Philosophia.
Tout à fait. Oui, tout à
alors,
fait.
Mais donc, les éditions Philosophia, bon, on les connaît de plus en plus, on en entend beaucoup parler, on a un beau site, on a même un blog qui est apparu. On a même Sophie tout court sur Trick Track qui vient de temps en temps faire un petit coucou.
La question à laquelle je réponds le plus souvent ces temps-ci,
voilà.
C'est
ben, pourquoi tout court?
Ben, c'est une expression québécoise que j'ai cru que en fait, j'ai jamais pensé que ça serait pas compris par, ouais. Par le restant du monde. Ici, tout court, c'est pour éviter la formule de politesse. Alors, si tu me dis bonjour, Madame Gravel, je vais te dire, ben non, appelle-moi ben, Sophie tout court.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de savoir quand est née Philosophia, pourquoi est-ce qu'on fait des jeux chez Philosophia? Est-ce que c'est sa seule activité? Et voilà, donc, lâche-toi. Quelle est donc la genèse de Philosophia?
Ben, la genèse de Philosophia, tout d'abord, on est distributeur. On a commencé à travailler en 2001 comme distributeur sur le Canada des différentes marques françaises et allemandes qui étaient très peu disponible, disons ça comme ça, au Canada. Et donc, on a commencé comme ça et on a porté ce chapeau de diffuseur-distributeur pendant 5 ans, donc jusqu'en 2006. Et en 2006 est né le volet édition. Et donc, on a fêté notre 2e année au mois de juin. Ben, on n'a pas fêté fort, mais... la date est passée donc, en juin 2008.
Quand on décide de passer sur le volet édition, quelles ont été les réflexions au niveau ligne éditoriale qui sont survenues? Parce que bon, les jeux que vous éditez, ben, en tout cas de notre côté, ont à chaque fois un succès et c'est même un succès grandissant puisque maintenant on commence à parler du dernier Philosophia.
Ah, ça fait plaisir à entendre.
Quels ont été les choix éditoriaux? Est-ce que vous avez eu des choix éditoriaux où vous avez dit, ben non, on va commencer par ça et puis on verra après?
En fait, tu sais, c'est comme ça s'est passé comme dans la vraie vie, les choses se passent. Il est d'abord arrivé une opportunité qu'on a saisie qui s'appelle les colons de Catane. Et l'aventure a commencé comme ça. En fait, on avait le souhait de devenir éditeur. J'avais le souhait de devenir éditeur depuis un bon bout de temps. Et on avait dans notre tiroir, on avait contacté Karsten Hartwig, qui est l'auteur de Chinatown. Et on lui avait dit, nous, j'ai découvert ton jeu par deux amis qui m'ont fait connaître le jeu il y a plusieurs années. Ton jeu a été diffusé et publié seulement en Allemagne. Je trouve ça dommage, on ne trouve plus ton jeu. Je trouve ça dommage, j'aimerais que le public francophone et ailleurs puisse le connaître. Est-ce que tu permettrais que je le refasse? Et écoute, il m'a dit oui, on était heureux comme des papes. Oh, je suis vraiment fière de ce que l'équipe a fait avec le jeu. Je pense qu'on a réussi à produire. Écoute, c'était le premier jeu pour lequel on développait, c'est-à-dire que le jeu existait déjà, on avait déjà une règle entre les mains, on avait déjà un jeu qui fonctionnait. Disons qu'on est parti d'un prototype clean cut. Et on a refait tout le matériel, le plateau, les illustrations et tout. C'était le premier qu'on faisait. Et je t'avoue, je suis vraiment fière du résultat. C'est un jeu que la qualité est au rendez-vous, puis c'est ça qu'on voulait. Mm-hmm. Et c'est ce que je vais tenir pour le restant de la collection VIP. Et finalement, on l'avait dans le tiroir, et là, s'est présenté l'opportunité Colons de Catane. Et là, on a dû mettre Chinatown de côté parce que on avait beaucoup, beaucoup de travail à faire avec le retirage ou, si tu veux, la réédition des Colons de Catane en français. Et on aura mis presque 2 ans avant de le reprendre, si tu veux, et d'être capable de le publier en avril. Mais l'aventure a commencé comme ça. Et la première année, je te dirais, ça a été dédié complètement à la réédition des titres de la gamme Catan. Et le premier titre qui est sorti qui n'était pas un jeu Catan, si je me souviens bien, c'est Piliers de la Terre, qui est sorti le même mois que Kauna, je crois.
Oui.
On avait remis en... En fait, c'était une remise en stock, plutôt.
Oui.
Et Les Piliers de la Terre aura été le premier jeu qu'on aura fait, si tu veux, comme traducteur, mais qui n'avait pas déjà été fait. Et ensuite, ça se passe comme dans la vie. On se fait offrir, on regarde, on évalue des jeux, et puis on dit oui, ça nous fait plaisir, non, ça, c'est pas pour nous. Bon, la ligne éditoriale, c'est simple. C'est avant tout des jeux de qualité. Ça, c'est mon premier souci. Je veux que les gens y jouent souvent. Pour y jouer souvent, il faut que le jeu soit bon, c'est-à-dire qu'il y ait un replay value très élevé. J'ai un jeu pour lequel tu joues une fois, tu dis bon, j'ai joué, tiens, je vais mettre ça en arrière de la tablette, je vais en chercher un autre. Ça me plaît pas.
Ça
passera pas avec moi. Et la deuxième chose, c'est que si je veux que les jeux soient joués souvent, je veux qu'ils soient de qualité. Je veux que les cartes n'usent pas à une vitesse. Je veux que le matériel soit de bonne qualité. Pour moi, l'expérience de jouer à un jeu de société, c'est une expérience complète. C'est une expérience tactile, c'est une expérience visuelle, c'est une expérience émotive avec les gens qui sont alentour de la table, avec qui je vis un bon moment. C'est un tout. Et donc, on essaie de choisir des jeux qui répondent à ça, qui réunissent le plus de gens possible alentour d'une même table, pas juste le happy few. Et
Mais donc, un jeu comme Les Piliers de la Terre, justement, qui est sorti en octobre 2006 à Essen, c'était déjà un très beau jeu. Quelle est la part de travail de Philosophia pour rendre ce jeu tout aussi beau, voire plus, avec tes Desiderata?
En fait, ce qui nous a frappé en premier quand on a vu Piliers de la Terre, c'est que le jeu était, à mon œil personnel, magnifique. Quand on a vu le plateau, il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était parmi les premiers jeux qui étaient illustrés, connus, si tu veux, par Michael Menzel. Maintenant, tous les éditeurs allemands et autres publient des jeux illustrés par Michael Menzel, mais au départ, quand Les Piliers de la Terre est sorti, c'était un peu la découverte de cet illustrateur-là. Et c'est ça qui a attiré notre attention, la qualité du matériel, de l'illustration. Et après, on a dit oui, on aimerait bien tester le jeu, l'essayer. Le reste, c'est... Et puis voilà. Bon, qu'est-ce que Philosophia lui apporte? Quand c'est un jeu en traduction, on n'est pas éditeur original. Donc, c'est pas moi qui construis le jeu, c'est pas moi qui choisis l'illustration, c'est pas nous qui écrivons la règle. Par contre, on a un devoir, quand on est traducteur, de rendre le jeu le plus lisible et accessible possible au public francophone. Et donc, on porte très attention à ce que la règle soit le plus limpide, le plus fluide possible, et qu'elle soit lisible par le plus de monde possible dans la francophonie. C'est pour ça que je dis souvent, et mon collègue Cyril la trouve très drôle, qu'on essaie d'écrire en français international. Et la raison est qu'on est dans un petit côté québécois, on est 7 millions, mais on produit pas les jeux que pour les Québécois. Et donc, si je me mets à écrire dans les règles qu'il faut brasser des cartes, qu'il faut tirer des dés, et y a la majorité des joueurs de votre côté de l'Atlantique qui comprendront absolument pas. Après, on adapte. Dans le cas où, par exemple, il y a des illustrations de boîte, il y a des choses qu'on regarde puis on se dit « Non, ça, ça plaît pas à... » à notre œil, si tu veux. Et on teste, hein. On fait pas juste ça. On est quatre ici. On fait pas juste ça entre nous quatre. On envoie des fichiers, des images à plein de gens en France et on demande un feedback. On dit est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez que c'est beau, joli, ça choque, c'est correct? Et on le fait pour les textes aussi.
Tu disais tout à l'heure, on avait un passé de distributeur et ça faisait longtemps que j'avais envie de devenir éditeur. Pourquoi est-ce que cette envie est née?
L'envie est née d'un besoin. En fait, je voulais combler un besoin qui était d'abord le mien, ensuite de ceux de mon cercle d'amis et de joueurs, qui était simple. C'était que j'avais le privilège moi-même d'aller en Allemagne à tous les ans parce que j'étais distributeur et puis j'allais rencontrer mes partenaires. J'y vais toujours. Et pour jouer à des jeux qui étaient produits en Allemagne, ben il fallait tout se bricoler des règles, downloader une règle que quelqu'un avait traduit avec un Google Translator, ou il y a des gens qui parlent vraiment français-allemand et qui se donnaient la tâche de le faire. Après ça, copier-coller, ciseaux, on se colle des cartes, on se bricolait des jeux pour arriver à jouer. Ben, un jeu bricolé, je me suis dit, il me semble qu'il n'y a pas juste nous qui apprécierait d'avoir une version finie dans la langue dans laquelle on joue. Et c'est ce désir-là, si tu veux, qui a donné lieu à l'envie de traduire les jeux qui étaient disponibles. Et ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris. Depuis des années, les jeux allemands étaient disponibles en anglais, par Rio Grande ou par Mayfair, mais principalement par ces deux-là, était disponible en langues avec notamment 999 Games, était disponible en tout plein de langues, mais pas en français. Et je me suis dit, mais ça se peut pas, pourquoi? Et les Français, les francophones, on n'en veut pas de ces jeux-là, pourtant ils sont bons, tout le monde le dit, on est là, on y joue, pourquoi personne ne le fait? Et en plus, c'est que ça devenait très restrictif. On ne pouvait jouer qu'avec les gens que ça dérange pas de jouer avec des jeux qui sont redevenus des prototypes parce que là, on a collé tout plein d'affaires dessus. Et c'est comme ça que c'est venu. Ouais, au début, je peux te dire qu'on n'était pas certains du tout. Hein. Quand on a commencé avec ça, avec cette idée-là de traduire, au début, ça a commencé par les colons de Catan. Alors ça, jusque-là, ça allait. Il n'y a pas personne qui est venu me dire « Ah ben Sophie, tu t'en vas dans le champ. » Mais quand on a commencé à dire oui, ben on va publier Les Piliers de la Terre qui vient de sortir, on a joué, le jeu est vraiment bon, on pense qu'il y a un public, et puis après ça, bon, enchaîner pas longtemps après la relation avec Aléa, qui est venue, et ensuite Anzim Gluck, ça a déboulé, si tu veux, et on a développé un partenariat privilégié avec eux. Et là, j'ai commencé à me faire dire, mais là, Sophie, fais attention, tu t'en vas dans le mur. Vous allez en vendre 500 copies à toutes les geeks qui se promènent sur Trick-Track et sur Dragon Nocturne et tout. Puis après ça, vous allez rester collés avec vos stocks. Faites attention. Finalement, ça s'est bien passé. L'année 2006 a été longue. On a commencé à publier en juin 2006, ce qui n'était pas du colon de Catan. Et ça a mis 6 mois avant de, tu sais, qu'on sache vraiment qu'il y a une réponse et que, oui, non seulement on allait aller au-delà des 500 copies que tout le monde nous promettait de vendre, mais plus. Mais c'était, je peux dire, un 4 à 6 mois angoissant.
Est-ce que maintenant, on a des créateurs de jeux qui viennent vous voir pour que vous les éditiez?
Oui.
Ah.
Ah, oui, et ça fait plaisir en plus, parce que, tu sais, tu te dis, au début, oui, j'ai envie de faire des jeux, oui, j'ai envie de faire des choses, la traduction, c'est une chose, mais la création de l'édition de jeux complètement nouveaux, comment on va faire pour qu'il y ait des gens qui viennent nous proposer des jeux? On n'est pas connus, on n'a pas d'éditeur, et... Personne ne venait me proposer des jeux. Et donc, quand on a commencé à en recevoir, ça nous a surpris. C'est un beau compliment parce que les gens viennent te confier leur bébé et te disent, garde, moi, j'ai travaillé là-dessus pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. J'aimerais ça que tu l'édites. Je trouve que c'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau de confiance. Mais ça, je le prends très, très à cœur. Et oui, c'est depuis, je dirais, depuis 6 mois, de façon régulière, si tu veux, on commence à recevoir des propositions de jeux originaux. Alors, nous, on est dans la région montréalaise. On est en banlieue de Montréal. L'entrepôt, les bureaux, l'atelier de création, c'est ici, en banlieue de Montréal. On est à Vaudreuil-Dorion. Plus précisément, que vous allez découvrir sur le plateau du jeu de Megawatt. On s'est fait plaisir. Ils ont fait un plateau Québec et... quand Friedman m'a présenté le plateau, ben j'ai dit, très gentil de mettre Vaudreuil-Dorion. Alors, il y a Vaudreuil-Dorion qui apparaît sur le plateau, et ça fait rire tout le monde alentour parce que c'est une petite ville de rien du tout qui, dans le fond, n'aurait absolument pas besoin d'être là, mais qu'on a mis pour se faire plaisir. Mm-hmm. Le jeu de société au Québec, en fait, c'est un marché qui se développe, c'est un marché en croissance, c'est un marché qui a plusieurs années de, pas de retard nécessairement, mais de décalage par rapport à celui que vous avez en France ou en Belgique. Avec les collègues éditeurs et distributeurs, quand on évalue la situation au niveau où on en est, on considère qu'on a à peu près une dizaine d'années de décalage, notamment au niveau des activités ludiques. En fait, je pense que c'est partout pareil. L'image que les gens ont ici, premièrement, c'est que le jeu de société, c'est Monopoly. Des fois, c'est risque. Et puis, si ta culture était un peu plus étendue et que ta mère aimait beaucoup les jeux de société, ben, t'avais peut-être jour de paye. En plus. Et c'est ça. Ça s'arrête là. Les jeux de société, c'est ça. Et le commentaire le plus fréquent qu'on a en animation ou lors des salons quand on montre les jeux, c'est « Ah! Je savais pas que ça existait des jeux comme ça. » Donc, il y a un manque de connaissances, si tu veux, un gap culturel, parce que je suis d'avis que le jeu est un objet culturel. Il y a un très gros trou. Donc, premièrement. Ouais. Deuxièmement, l'autre perception très répandue, c'est que les jeux, c'est pour les enfants. Et si tu joues encore à des jeux de société à 38 ans, ce qui est mon cas, t'as quelque chose de pas réglé dans ta vie, là. Et donc, il y a ces deux barrières-là, si tu veux la briser. La première, c'est qu'il y a d'autres choses. Et non, jouer quand on est sorti de l'adolescence, c'est pas nécessairement quelque chose de grave.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'actualité très proche de Philosophia par rapport à des sorties? Il y a beaucoup d'annonces et des choses assez attendues.
Écoute, 1960 a été annoncé d'ici la fin de l'année. Alors, c'est une traduction d'un jeu de Zeman Games qui s'appelle Kennedy contre Nixon. Et c'est un jeu, c'est un card-driven qu'on appelle. Je sais pas, on n'a pas traduit ça, hein, un card-driven. Un jeu mené par les cartes. Pas très beau.
Ouais, on peut dire que c'est un gros jeu, mais
oui,
que à deux.
Oui, qui va sortir en septembre. Ouais. Et c'est notre première collaboration avec un éditeur américain. Et c'est un type de jeu totalement différent. Carrément, ça n'a rien à voir avec la sorte de jeu allemand, si tu veux. Ah, c'est un gros jeu. Oui, c'est un gros jeu. Non seulement c'est un gros jeu à jouer, c'est un gros jeu à traduire. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de textes sur les cartes, partout dans le jeu. Mais c'est un gros jeu. C'est un jeu joueur. C'est un jeu dans lequel il faut investir du temps dans la règle. Mais une fois que c'est maîtrisé, c'est bon. Le jeu est demeure fluide. En fait, c'est un jeu qui refait l'histoire. 1960 a été... Avant l'élection, la course à la présidentielle qu'on vient de vivre, j'aurais dit que ça a été la plus importante dans l'histoire américaine, qui a opposé Kennedy à Nixon et qui s'est terminée comme on le sait. Mais bon, quand on joue à ce jeu-là, on a l'occasion de refaire l'histoire. Peut-être aura-t-il un jeu sur la course au présidentiel Obama, Clinton, ouais. Sait-on jamais. Alors ça, c'est prévu pour l'automne. Il y a Genoa que je t'ai mentionné. Il n'a pas été annoncé, c'est-à-dire qu'on n'en a pas fait une annonce publique avec des illustrations et tout, mais c'était dit. C'est le numéro 2 de la collection VIP pour Very Important Players. Ça doit paraître en novembre. Et puis, écoute, un gros paquet de jeux pour SN. Et parmi le gros paquet de jeux pour SN qui va sortir, on a fait une sélection. Et on a choisi d'en éditer un certain nombre chez Eggertspiel, chez Hans im Glück, chez Alea et chez Cosmos. Ça veut dire qu'ils seront publiés, sauf pour Alea. On ne peut pas publier en même temps que Alea en français. Mais pour les autres éditeurs, ils seront publiés en même temps en français qu'en allemand. Donc, on va participer à la production dès le premier tirage. Par exemple, c'est d'information publique qu'on fera jeu qui va être publié par Hans im Glück, qui s'appelait Vauban, qui s'est appelé Versailles, qui s'appellera je sais pas quoi au final. Et donc, celui-là, nous le publierons en même temps. Donc, il ne sera pas disponible à SN, parce que Philosophia n'aura pas de kiosque à SN. C'est simple à comprendre, c'est que les jeux que Philosophia imprime, nous ne les faisons qu'en français. Mais on y sera. C'est sûr que nous, on y sera. En fait, on prend la décision à la lecture des règles et au testage du prototype que l'on reçoit avant la production allemande. On n'attend pas de voir ce qui va s'en vendre en Allemagne pour savoir, pour prendre la décision de savoir si on va le faire pour le marché francophone. Et d'ailleurs, si on faisait ça, je pense qu'on passerait à côté de la plaque un bon nombre de fois parce que il y a des exemples où ça a été une catastrophe. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais disons que ça n'a pas donné les résultats attendus en Allemagne et pourtant ça a très bien fonctionné sur le marché francophone et vice-versa. Je pense qu'il faut choisir des jeux en fonction du marché que l'on couvre, mais ça, on le fait... Ben, c'est le risque d'éditeur, je pense, que de rester assis, attendre de voir si ça va donner un succès pour ensuite le publier. Il me semble qu'on ne fait pas notre boulot. L'idée, c'est de choisir, de penser. Éditer, c'est ça, hein? C'est choisir et faire connaître. Non, je pense que tout le monde le fait comme ça maintenant. Rio Grande fait ça depuis des années. Z-Man Games aussi, récemment. On choisit les jeux sur règles, sur prototype, sur l'auteur du jeu. Je vais te raconter pour la petite histoire quelque chose, un fait historique. Quand j'ai l'année dernière, j'étais en rencontre avec, je ne me souviens pas si c'était à Essen ou à Nuremberg. En tout cas, j'étais en rencontre avec Bernd Brunhofer de chez Hansen Gluck. Il me dit, l'année prochaine, je vais publier un jeu. Et puis, si ça t'intéresse, tu me le diras. J'ai dit, quel est le jeu? Ben, il me dit, ça va s'appeler Stone Age. J'ai dit, ça part mal. Il y en a eu pas mal de jeux Stone Age. Il me semble que... Ah, il dit, je m'en fous, je le publie pareil. C'est mon jeu. J'ai dit, c'est ton jeu? Il dit, oui, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est Michael Menzel qui va l'illustrer. Ben, j'ai dit, d'accord, je prends. Et je l'avais pas vu, mais je sais... que c'est lui qui a fait l'excellent Saint Petersburg. C'est le créateur de ce jeu-là et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et donc, c'est honnêtement, ça a été presque une formalité de recevoir la règle de jeu, de la lire, de tester le jeu parce que je savais que ça allait m'intéresser. Ça se fait dans le milieu du livre aussi, hein? Quand un éditeur commence à publier un auteur de jeu, quand Actes Sud décide de publier Paul Auster, ben, le prochain livre qui va sortir de Poster Actes Sud va le publier. Parce que tu es derrière un auteur, tu es derrière une démarche, tu es derrière. Alors que ça se fait pas vraiment dans le jeu. Non, je sais, mais j'ai pas cette vision-là du tout. Je suis vraiment très pro.
Joli. Non, c'est bien.
Pro-auteur, et c'est un auteur qu'on fait connaître, et c'est un style, et c'est. C'est
dans son contexte.
Profondément que le jeu est un objet culturel, que les auteurs de jeux sont des artistes, tout comme des acteurs de films ou des auteurs de livres. C'est une œuvre, c'est pas un produit.